Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Bénédicte Tassard. Bonsoir Bénédicte.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et voici les titres de l'actualité de ce jeudi 12 août. La saturation des hôpitaux dans les Antilles, une situation Covid inédite par son ampleur. Deux membres du gouvernement attendus à l'hôpital de Fort-de-France dans une petite heure. L'état d'esprit des soignants avec notre envoyé spécial en Martinique. Et puis l'invité de RTL Soir sera Serge Letchimy, le président de cette collectivité territoriale. Pour qui la troisième dose? Nouvelle campagne de vaccination en septembre, 5 millions de personnes concernées. Le décret sur le contrôle technique des deux roues, aussitôt publié, aussitôt suspendu. L'Élysée se mêle de l'affaire. Les États-Unis se déchirent sur le port du masque à l'école. Les élus républicains n'en veulent pas pour les enfants. Et puis toutes nos félicitations pour un couple qui bat les records de longévité. 82 ans et 256 jours de mariage pour Marcel et Berthe. La météo, bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Bénédicte.
Alors
bonsoir
ce soir, attention aux orages dans le centre-est.
Absolument, 13 départements sont en alerte orage, donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes au sud de la Bourgogne-Franche-Comté et 5 départements du sud-est sont maintenant en vigilance orange canicule. Donc des orages forts, on va surtout surveiller l'impact de grêle et surtout les rafales de vent qui pourraient être très violentes à plus de 100 km/h. Donc prudent surtout si vous êtes en forêt. Quant à la journée de demain, elle sera beaucoup plus calme avec quelques nuages, un ciel un petit peu plus variable de la Bretagne remontant vers les Hauts-de-France ainsi qu'au niveau du quart sud-ouest. Ça va se dissiper dans l'après-midi pour une très belle journée quand même avec quelques averses orageuses qui vont résister dans l'après-midi essentiellement près des reliefs. Pour les températures, la chaleur reste très marquée encore toute la journée dans le sud-est. On descendra pas en dessous des 21 degrés pour le réveil, jusqu'à 38 voire 40 degrés encore localement, alors que par ailleurs ça baisse un petit peu, mais ce n'est que temporaire car on aura à nouveau une hausse du mercure dès ce week-end.
Merci Claire, vous restez avec nous tout au long de RTL Soir. Vos chroniques de l'été pour vous accompagner. Après les programmes télé, Jean-Louis Etienne nous donnera son idée de l'avenir, l'avenir qui nous attend dans la chronique Et Demain de Guillemette Franquet. Après la crise, le service éco se penche sur le dopage et l'affaire Festina. Laissez-vous tenter de l'été, ce sera juste avant 19h avec au menu Charles Trenet et le musée Carnavalet. Les 100 ans de la radio enfin et les astuces pour imaginer des émissions populaires. Bonne soirée à tous, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
La mesure avait hérissé le poil des motards, mais le nouveau contrôle technique des deux roues est suspendu, a-t-on appris cet après-midi, et ce jusqu'à nouvel ordre, précise le ministère des Transports. Marie-Bénédicte Allaire, Emmanuel Macron semble avoir mis le nez dans cette affaire.
Effectivement, c'est après un échange avec le président que le ministère des Transports a annoncé cet ajournement. Emmanuel Macron a découvert le décret ce matin et Jean-Baptiste Djebbari est convenu avec le président qu'au cœur de l'été, ce n'était pas la priorité, explique l'entourage du ministre des Transports. Sport. On n'allait pas embêter les gens avec ça, ajoute l'Élysée. Pas d'urgence, en effet, puisque la France a jusqu'en 2023 pour transposer cette règle européenne. Mais le décret était prêt à sortir depuis longtemps et il s'est retrouvé sur le dessus de la pile pour des raisons techniques et mécaniques, selon l'entourage du ministre. Alors, les concertations vont reprendre dès le début du mois de septembre avec les fédérations de motards, ce qui était d'ailleurs leur souhait. Ce petit loupé, c'est la faute à pas de chance et pas une intention délibérée, à en croire la version officielle. Mais la réaction rapide au sommet de l'État montre que le président est soucieux de ne pas ouvrir de nouveaux fronts de mécontents.
Les explications de Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Le variant Delta s'emballe dans les Antilles avec un taux d'incidence de 2000 pour 100 000 habitants. Une situation inédite qui dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, selon le patron de la réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Même scénario en Martinique. Un plan d'urgence a donc été imposé par le gouvernement. Confinement strict, renfort de soignants et bientôt des renforts pour les renforts, explique le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu est maintenant attendu avec son collègue de la santé Olivier Véran au CHU de Fort-de-France, puis visite d'un centre de vaccination. Sinamir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes devant le CHU de Fort-de-France. Les ministres arrivent sur place d'ici une heure et ils vont pouvoir constater de leurs yeux la situation de crise extrême à laquelle font face les Martiniquais.
À commencer, oui, par ces deux grandes tentes blanches installées sur le parking des urgences où s'alignent les brancards de patients en détresse respiratoire, parfois couchés sur le ventre, entre deux portes battantes. Et c'est comme ça dans la plupart des couloirs de l'hôpital de Fort-de-France ce soir. Des brancards par dizaines qui servent de lit, faute de place. Le docteur Orso est médecin urgentiste.
Là, à l'instant T, il y a plus aucun box et accès à l'oxygène dans aucun box des urgences. Moi, dans mon sas d'accueil, j'essaye de doubler ma capacité d'accueil, mais je manque de matériel, de manomètres. On travaille minute en minute et je vous dis, on n'est pas tout seul pour le faire.
Et notamment grâce au renfort arrivé de l'Hexagone pour appuyer les soignants sur place. Le docteur Valandoff, par exemple, a connu les trois premières vagues de Covid dans l'Hexagone, en région parisienne, mais il ne pensait pas se retrouver face à une telle crise en arrivant il y a 2 jours en Martinique.
On est dans une situation de guerre, puisque maintenant les médecins ils sont obligés de faire du tri. Je crois que j'ai jamais vu autant de personnes en détresse respiratoire de toute ma carrière. C'est quelque chose d'assez incroyable. J'arrive pas trop. Enfin là, je suis un petit peu, bluffé par la situation. Ouais.
Et en plus de ce scénario catastrophe, c'est dans un climat de mobilisation qui continue sur le parvis de défiance d'une partie des soignants locaux que les ministres vont arriver. Ils étaient encore rassemblés dans l'après-midi contre l'obligation vaccinale. L'accueil pourrait donc plus ou moins tendu tout à l'heure à Fort-de-France.
Sinamir, notre envoyé spécial en Martinique, vous l'entendez, la situation est dramatique. Invité de RTL Soir dans quelques minutes, Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique. Ouverture des rendez-vous dès le 1er septembre pour une 3e dose de vaccin à partir du 15 septembre. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a précisé les détails de cette nouvelle vague de vaccination. 5 millions de personnes sont concernées, Sophie Jousselin.
Oui, des personnes dont on sait que l'immunité commence à baisser 9 mois après la première injection. Il s'agit des résidents en EHPAD ou en unité de soins de longue durée, des plus de 80 ans qui vivent encore chez eux, des personnes qui risquent de faire une forme grave du Covid, c'est-à-dire qui ont été greffées, qui suivent un traitement contre le cancer, qui sont dialysées, et des personnes immunodéprimées. Les piqûres pourraient commencer à partir de mi-septembre. Dans les EHPAD, ce sera la même organisation que pour la première dose. L'injection se fera sur place. Dans tous les autres cas, les rendez-vous pourront être pris en centre de vaccination, chez le médecin traitant ou dans une pharmacie. Même si les personnes ont reçu une première dose de Pfizer, elles pourront recevoir du Moderna pour la deuxième. Les vaccins sont considérés désormais comme interchangeables. D'autres populations seront peut-être concernées par ce rappel. La Haute Autorité de Santé doit établir une liste complète avant la fin du mois.
Sophie Jousselin pour RTL. 18h07, demain après-midi à la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre se dérouleront les obsèques du prêtre assassiné Olivier Maire en présence du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur demande au préfet de renforcer significativement la surveillance des lieux de culte et des offices pour la fête de l'Assomption le 15 août. Selon Gérald Darmanin, l'actualité récente et la persistance d'un risque terroriste exigent une attention particulière. 170 faux passes sanitaires dans la nature. Un médecin marseillais s'est fait hacker son smartphone. Hugo Hamelin, les pirates informatiques ont réussi à récupérer ses identifiants de sécurité sociale.
Oui, c'est en consultant son compte Amélie sur son téléphone portable que ce chirurgien de l'hôpital européen a découvert, stupéfait, la supercherie. Un pirate a utilisé ses identifiants pour créer pas moins de 178 passes sanitaires, des cycles complets avec QR code à la clé, sinon ça ne sert à rien, en se servant donc du profil professionnel de ce médecin. En plus, c'est un chirurgien qui ne vaccine pas du tout. Il a donc été signalé cette usurpation d'identité à la police et comme l'ont révélé nos confrères de la Provence, ce matin, le parquet a décidé de lancer une enquête préliminaire. 178 passes sanitaires dans la nature, sans aucune injection. Les policiers cherchent maintenant à dérouler la pelote informatique pour savoir qui va en profiter.
Et il va y avoir du travail. Les précisions de Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. La canicule s'installe dans le sud-est de la France. Raphaël Vantard atteint l'Ermitage dans la Drôme et 36 degrés cet après-midi là-bas, mais les gens du sud savent s'adapter.
Oui, vous avez raison, c'est un peu ça. Il y a d'abord ceux comme Paul, 79 ans, qui attendaient presque cette canicule. Les précautions d'hydratation bien prises, l'homme profite des hautes températures.
Il fait bon là, il y a du soleil, de quoi se plaindre. Je bois beaucoup d'eau et puis je mange beaucoup de crudités. C'est plus agréable de regarder les gens avec le soleil quand même.
Ça semble plus dur en revanche pour Maxime, père de famille en vacances dans ce nord de la Drôme, terre de vignes de l'Ermitage.
Le problème c'est qu'on est passé de 15 degrés il y a un peu moins d'une semaine à 35 d'un coup, donc voilà, c'est ça qui est difficile en fait. On n'a pas le temps de s'adapter à la changement de température. Maintenant déjà à 7h le matin, c'est... Ouais, on n'a pas envie de s'activer quoi.
36 degrés cet après-midi, Idriss, papa d'une petite Inès, n'a lui trouvé qu'une seule solution, direction la piscine municipale.
Il fait trop chaud pour rester ailleurs que dans une piscine aujourd'hui. Le début d'après-midi, on privilégie la maison à l'ombre, au frais. Deuxième partie d'après-midi, les pieds dans l'eau. Quand on a vraiment une piscine à proximité du domicile, c'est limite un crime de pas en profiter.
D'ici quelques minutes, plusieurs orages en formation sur le département devraient temporairement rafraîchir l'atmosphère. Mais la Drôme restera en vigilance canicule demain, avec un mercure dépassant par endroits les 37 degrés.
Oui, attention quand même aux orages, vous avez entendu Claire Delorme au début de ce journal. Merci Raphaël Vantard. Atteint l'Ermitage pour RTL. Il a plu en Grèce, la situation s'améliore, mais des centaines de pompiers continuent de lutter contre les incendies depuis plus de 2 semaines maintenant, notamment sur l'île de Bé et dans le Péloponnèse. 100 000 hectares partis en fumée et 3 morts à déplorer. En Algérie, premier des 3 jours de deuil national, décrété pour honorer les 69 morts, 41 civils, 28 militaires, dans les flammes, notamment en Kabylie. Au 4e jour de ces incendies, les efforts pour venir à bout des feux se poursuivent, mais les moyens restent limités. Hier, la France a envoyé 2 bombardiers d'eau et un avion de commandement. Les Américains, eux, se déchirent actuellement sur le port du masque à l'école. Le variant Delta touche de plus en plus les enfants, les entrées en urgence pédiatrique se multiplient et la rentrée scolaire approche. Mais les parents doivent faire face à des gouverneurs républicains qui refusent le port de ce masque dans les écoles. Karine Houghton.
Oui, une vraie résurgence du débat sur le masque ici, en même temps que le variant Delta continue à se propager rapidement. Il y a déjà plusieurs gouverneurs républicains qui ont durci le ton lorsque Washington et les autorités sanitaires fédérales avaient décidé de réimposer le masque à l'intérieur il y a 2 semaines. Ils ont alors décidé localement d'interdire aux écoles d'imposer le masque aux enfants. Ils menacent même maintenant de couper les financements aux établissements scolaires qui ne leur obéiraient pas. Mais du coup, certains parents s'inquiètent, comme ce groupe de 150 mères qui ont fait un sit-in de protestation hier au Parlement de l'Iowa, inquiètent que leurs enfants de moins de 12 ans ne puissent ni recevoir le vaccin, ni étudier dans un environnement protégé. Au Texas, certaines écoles ont décidé de contourner carrément les ordres du gouverneur et réimposent le masque dès lundi prochain. Et ce débat part vraiment dans tous les sens. Le ton est monté dans le Tennessee. Une réunion a dégénéré alors que des parents anti-masques ont menacé la direction violemment après sa décision d'exiger d'être masqué dans les salles de classe.
Karine Houghton, la correspondante de RTL aux USA. Il a mis le temps, mais ça y est, Kylian Mbappé a enfin souhaité la bienvenue à son nouveau collègue Lionel Messi. Welcome to Paris, Léo, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Mbappé, qui est toujours pressé par le PSG de prolonger son contrat. Pendant ce temps, première apparition de Messi au centre d'entraînement du PSG. La star argentine du foot était aujourd'hui au camp des loges, au menu exercice physique. La belle histoire du jour, on la puise au cœur de l'Eure-et-Loire, dans le petit village de Saint-Élif. C'est là que Marcel, 107 ans, et Berthe, 100 ans, coule des jours heureux. Ils détiennent le record de longévité d'un mariage. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Il y a exactement 82 ans et 256 jours. Claudette, leur fille, nous raconte cette histoire d'amour.
La première fois qu'ils se sont vus, c'était à un bal, à l'occasion de la fête du village. Maman avait repéré papa, donc, qui dansait avec une amie de classe. Et puis elle dit, ah, elle en a de la chance, Fernande, elle danse avec un beau cavalier. Quelques temps plus tard, papa a eu un petit accident de vélo et il va travailler. Et son patron lui dit, écoute, tu vas voir le docteur Manchouane. Et qui ouvre la porte? Ben, c'était maman. Depuis, ils ne se sont jamais quittés. Comme parents, mais c'était des amours. Jamais on les a entendus se disputer. Jamais. Ils se tiennent la main dès qu'ils peuvent. Ils ont eu une vie très saine, très sage. Ça s'est passé comme ça. Ils sont même surpris d'avoir été mariés aussi longtemps. Mais c'est vrai que dans la famille, les mariages tiennent assez bien quand même.
Félicitations aux vieux mariés, c'est formidable. Et merci à leur fille Claudette d'avoir répondu aux questions de Lucille Besse pour RTL. Une première pause dans RTL Soir et on repart en Martinique où le Covid flambe.
RTL Soir. Bénédicte Tassar,
RTL Soir.
18h15, invité de RTL Soir, Serge Letchimy, le président de la collectivité territoriale de Martinique. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir ou bonjour, puisque c'est la mi-journée en Martinique. Nous voulions faire le point avec vous, si vous le voulez bien, avant l'arrivée au CHU de Fort-de-France d'Olivier Véran et de Sébastien Lecornu, ministre de la Santé et des Territoires d'Outre-mer. Vous êtes dans l'œil du cyclone de l'épidémie de Covid, avec un taux d'incidence de 259 cas pour 100 000 habitants. Est-ce que le pic est atteint ?
C'est beaucoup plus que ça. Nous avons dépassé les 1200 cas pour 100 000 habitants. La Guadeloupe a atteint le chiffre de plus de 2000 cas.
Oui.
Donc la situation est véritablement très, très, très difficile.
Et est-ce que le nombre de cas continue de grimper?
Oui, le nombre de cas continue de grimper puisque nous étions environ à 3400 cas il y a une semaine. On est passé à 3800 et ensuite aujourd'hui on est à il y a deux semaines. On est à environ 4200 cas de personnes contaminées sur une durée d'une semaine. Ce qui fait entre 800 et 900 cas par jour de plus. Donc la situation est extrêmement grave et la saturation est au rendez-vous puisque nous avons 45 patients en réanimation, entre 45 et 50. Et puis nous avons environ une trentaine, 25 à 30 personnes qui attendent en médecine classique pour être acceptées en réanimation. Et nous sommes actuellement au stade de, malheureusement, le corps médical qui travaille énormément, il faut le rendre hommage, à faire du tri en fonction de la comorbidité des malades ou de l'âge. Actuellement, c'est environ 10 morts jour. Et on était à 5 morts jour il y a une semaine et demie, 10 jours.
Donc vous confirmez le tri. Vous confirmez le tri des patients. Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix.
Et les médecins, les spécialistes, les hôpitaux sont aujourd'hui arrivés à ce stade. C'est-à-dire que la situation est tellement difficile, il y a tellement de jeunes de toucher, parce que ça touche beaucoup les jeunes aujourd'hui, notamment certains variants, fait que les décès qui étaient des personnes de certain âge il y a plusieurs mois, aujourd'hui on a des jeunes de 30 ans, il y a un décès de 31 ans. Donc ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes. Et à ce titre-là, les médecins, faute de moyens de réanimation, malgré le renforcement de l'armée avec 10 lits de réanimation de plus et éventuellement une dizaine de plus, ce qui nous ramènerait environ 50 capacités de lits de réanimation. Mais de mon point de vue, c'est pas suffisant. C'est pour ça que je revendique qu'on mette en place un hôpital militaire de campagne.
Oui, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous allez en reparler. Voilà, vous allez en reparler. Vous demandez un hôpital militaire comme à Mulhouse pendant la première vague. Vous allez bien sûr, je pense, le redemander aux membres du gouvernement qui arrivent.
Je l'ai fait par écrit, très directement, parce que ma responsabilité de président de la collectivité territoriale de Martinique, je ne peux pas rester silencieux face à une situation aussi grave et qui nous touche de plein fouet. L'État a fait déjà des efforts, bien sûr. Nous avons aussi, je remercie les infirmiers, les infirmières et les médecins qui sont venus de l'Hexagone, de beaucoup de régions pour nous aider. Il faut vraiment les remercier. Cependant, je pense que si nous avons actuellement 4200 cas pendant une grosse période d'une semaine, nous risquons de monter à 5000, 6000. Et si on monte à 5000, 6000, comme la Guadeloupe aujourd'hui est à 6000, on sera débordé, on n'aura plus de place.
Et un hôpital militaire, ça suffira? Un hôpital militaire où il vous faut plus?
Écoutez,
de quoi avez-vous besoin?
Quand on parle d'un hôpital militaire, on parle d'une logistique complète, comme ça s'est fait à Mulhouse. Et Mulhouse avait une situation trois fois moins compliquée, moins difficile, moins pire, si je peux me permettre de parler ainsi, que nous. Donc il s'agit de répondre à la masse et de l'évolution. Quand vous avez un hôpital militaire, vous avez la structure, vous avez aussi les moyens techniques, vous avez les spécialistes qui l'accompagnent. C'est un hôpital, quoi, qu'on déplace de campagne. Tandis qu'aujourd'hui, on est en train de pousser les murs pour pouvoir trouver des solutions et bien sûr, bienvenue à l'afflux de personnes. Je rappelle quand même qu'on reçoit environ 130 à 150 personnes jour et environ 20 à 25 qui sont hospitalisées. Et la plupart de ces gens qui sont hospitalisés ne sont pas vaccinés, bien sûr.
Ces chiffres font peur. Serge Letchimy, est-ce que vous avez déjà eu une réponse du gouvernement?
Écoutez, les deux ministres qui sont présents, s'ils viennent, c'est parce que il y a aussi une prise de conscience de la part du gouvernement. Cette prise de conscience doit se traduire en fait précis, en moyens précis. C'est pas ce gouvernement qui est responsable. Depuis des années, on n'a pas cessé de dégrader les conditions de l'offre de soins dans les départements et les régions d'outre-mer. Ça s'est traduit par une précarité de l'offre de soins et une paupérisation de l'offre de soins. Et ce drame qui nous touche avec une double peine, à la fois la peine liée à la Covid, mais aussi la peine qui est liée à la saturation des conditions d'accueil des personnes.
D'accord. Est-ce que vous constatez le début d'un regain de vaccination dans cette population?
Alors, on a ce que je peux appeler un frémissement au cours de cette dernière semaine. Mais le niveau de vaccination reste relativement faible. Nous nous battons parce que nous considérons que, bien sûr, chacun a le droit de se faire vacciner, de ne pas se faire vacciner, mais à la circonstance, nous nous mobilisons parce que nous considérons que la seule solution pour ne pas faire faire une maladie avec des conséquences relativement graves, c'est de prendre la vaccination. Ça règle pas tout.
Il n'y a pas encore de prise de conscience.
La prise de conscience, elle est lente, je dois l'avouer, mais il y a quand même des comportements aujourd'hui. J'y vais même en travaillant personne par personne, notamment dans l'institution où je suis, et on sent une prise de conscience parce que passer de 2 morts par mois ou de 2 morts par mois à 10 morts au jour, tout le monde prend conscience parce qu'on a tous un membre de notre famille touché par cela.
Donc il faut de la pédagogie,
grand-maman ou grand-papa ont réagi, et notamment des jeunes qui commencent à mourir ont réagi. C'est pour ça que je demande à l'État d'amplifier les solutions et les moyens à la hauteur du drame que nous sommes en train de vivre en Guadeloupe et en Martinique.
De la pédagogie encore ?
Oui, il faut faire. C'est pas seulement de la pédagogie. Je pense qu'il y a une réticence qu'on peut comprendre parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations sur plein de choses de la part de certaines familles. Mais au-delà même de la pédagogie, il y a aussi l'obligation que nous avons de ne pas contaminer les autres, même si on veut pas, ce qui veut dire que la liberté, sa liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Et le besoin de vivre de tout le monde, ici en Martinique ou dans le monde entier, passe par un minimum de discipline, de comportement.
Et
aujourd'hui, cette prise de conscience, j'espère, se fera en plus des gestes barrières, mais surtout la vaccination.
Merci beaucoup Serge Letchimy d'avoir été l'invité de RTL Soir. Je rappelle que vous êtes le président de la collectivité territoriale de Martinique. Une petite pause, on quitte cette actualité dramatique. On se concentre sur les programmes télé de ce soir.
RTL Soir. Bénédicte Tassard.
RTL Soir.
Allez, on ouvre le programme télé pour ce soir. Bonsoir Laurent Maxi.
Bonsoir Bénédicte.
Quoi de beau sur votre plateau de télé ?
De l'évasion. J'ai totalement craqué pour l'épisode des trains pas comme les autres de ce soir.
C'est j'adore cette émission.
Ouais, moi aussi. L'avant-dernière destination avant la fin de cette saison diffusée sur France 5 et qui a battu cet été des records d'audience. Ce soir, direction un pays mal connu au cœur de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, un pays essentiellement désertique dont seulement 10% des terres sont exploitées par l'homme. Les Ouzbeks ont la réputation d'être particulièrement accueillants. Et ça va être le cas dès ce soir, dès les premiers pas dans le pays. Philippe Googler va découvrir cet accueil particulier à bord d'un train, évidemment. Mmh. Un train où il s'étonne de voir que la plupart des hommes sont particulièrement baraqués. Il y a une explication, lui dit un Ouzbek, qui lui dit que là-bas, on mange du plof.
Du plof !
Un plat très 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 riche en calories. Ne bondissez pas tout de suite les filles, Bénédicte. En attendant, ces hommes qui parlent de ce plat, la fin est drôle.
Tous les hommes savent préparer le plof, ici, en Ouzbékistan. Et je vais te dire, c'est même les hommes qui le préparent le mieux. Le plof, c'est un plat d'homme. Il est bien meilleur, plus savoureux préparé par un homme.
Et vous vous dites rien? Vous confirmez que c'est meilleur et plus fort quand c'est les hommes qui les font?
Oui, je confirme. Les hommes le font mieux que les femmes. Les hommes ne pensent pas à économiser les produits. Ils ont la main lourde sur les ingrédients. Les hommes sont fiers de leur plof, mais ils ne cuisinent que ça. Il faut bien leur laisser quelque chose dont ils peuvent être fiers. Et ça me fait des vacances.
C'est vrai que nous, Laurent, on est pour les hommes en cuisine. Claire, d'accord avec moi ?
Absolument.
Voilà. Et après le plof, où ils font donc plein de plof-plof dans la marmite, Philippe Googler va aller goûter une autre spécialité, la chèvre. Pas la côtelette, non. On mange tout, les pattes, la tête et les yeux.
En fait, c'est gélatineux, un peu plus que l'autre gélatine. Donc c'est un petit peu plus dur. Donc ça a plus de résistance sous la dent. Mais au fond, si on oublie que c'est un œil, ça va.
Oubliez l'œil. C'est un très joli voyage avec des images saisissantes, comme celle de la mer d'Aral, aujourd'hui un vaste désert. Un crime écologique des Russes dans les années 60, nous explique un ancien pêcheur. Des trains pas comme les autres, ce soir, France 5, 20h50.
Et puis au rayon fiction, Laurent, une rediffusion terriblement d'actualité.
Oui, sur France 3, la chaîne propose un téléfilm déjà diffusé il y a 2 ans. Classe unique, nous sommes dans un village, comme il en existe des milliers en France, qui voit peu à peu sa population diminuer. Médecin et maire de Saint-Laurent, Jacques Campé, Sam Carman, refuse de se résoudre à la fermeture de la classe unique de l'école du village. Alors il n'a pas d'autre solution que celle que lui impose la préfecture, héberger des réfugiés syriens et leurs enfants.
Des réfugiés à Saint-Laurent ?
Oui.
Vous voulez que je vous rappelle notre taux de chômage ?
Toutes les municipalités de la région sont mises à contribution. C'est un dispositif qui ne dure qu'un an.
Ah oui. Et le maire de Genouillet, par exemple, il a répondu quoi ? Ça m'intéresse.
Il a refusé.
Ah ben voilà.
Bon, la question est simple. Vous voulez sauver votre école ou pas ?
Mais c'est pas la question.
Mais si ! Jacques.
C'est quoi la question ? Nous, on cherche simplement à vous aider, hein, c'est tout.
Non, vous profitez de notre misère pour gérer un problème comptable. Ça n'a rien à voir avec de l'aide, ça.
Très bien. Je vous laisse réfléchir.
Une chronique sociale avec également Clémentine Célarion, militante d'ONG décidée à sauver le monde. Classe unique à voir ou revoir sur France 3, 21h. Enfin, pour les enfants, une belle histoire de tortues et de poissons avec Samy 2, deux tortues enlevées par des braconniers, revendues à un aquarium de Dubaï. Ça a un petit goût de Nemo. C'est tout mignon, c'est surtout très joli grâce à des milliers de prises de vue qui avaient été réalisées, des prises de vue sous-marines, prises de vue réelles qui avaient donné lieu ensuite à des décors 3D.
Vous serez heureux d'apprendre que nous avons introduit de nouvelles espèces dans notre aquarium, à poids nommé pour votre visite. Là, nous avons une tortue verte.
Oh, wow, c'est génial! Regardez comme elle est grande, cette tortue énorme!
Et à côté d'elle, un beau spécimen de tortue lutte.
Magnifique!
Des humains sous l'eau? C'est quoi cet endroit?
Voilà, avec entre autres les voix de Franck Dubos, Kelly Semoun, Samy 2, c'est sur Sister, 21h.
Merci Laurent. Oui, les enfants peuvent en profiter. Je me disais qu'ils pouvaient se coucher plus tard en ce moment. Faut qu'ils en profitent.
Surtout là, c'est dès 3 ans. Vous pouvez y aller.
Vous ne bougez pas Laurent. On se retrouve dans quelques minutes pour votre chronique estivale. Les 100 ans de la radio. À tout de suite.
À tout de suite.
RTL. Il est 18h29.
RTL Soir.
Bénédicte Tassard.
Le rappel des titres de l'actualité. Deux ministres en visite au CHU de Fort-de-France en Martinique actuellement. Étape numéro 2 après la Guadeloupe. Les centres hospitaliers antillais réclament de l'aide et vite. Les motards gagnent une manche. Suspension du décret sur le contrôle technique des deux roues. Un texte publié hier et aussitôt retiré à la demande d'Emmanuel Macron. Les représentants des motards seront reçus au ministère des Transports à la rentrée. Un serveur frappé pour avoir demandé le pass sanitaire d'un client, ça s'est passé à Sainte, en Charente-Maritime. Un coup de poing sur le visage, une plainte sera déposée demain contre ce client agressif. Adidas se sépare de Reebok, l'équipementier sportif allemand vend sa filiale pour plus de 2 milliards d'euros. Un groupe américain, Authentic Brands. Mbappé sort enfin de son silence, l'attaquant du PSG souhaite la bienvenue à Lionel Messi sur Twitter, sur Instagram. Un signe bienvenu alors que plane toujours une incertitude sur l'avenir de Mbappé à Paris. Le temps clair de l'orme, on s'arrête d'abord sur les orages ce soir, si vous le voulez bien.
Exactement, je rappelle que 13 départements sont actuellement en alerte orage. Il s'agit donc de l'Auvergne, la région Rhône-Alpes au sud de la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis 5 départements ont maintenant basculé en vigilance orange canicule, donc des départements du sud-est. Et donc des orages vraiment violents. On attend surtout beaucoup de grêle, mais aussi de fortes rafales de vent qui seront tempétueuses, plus de 100 km/h. Ça devient une tempête à partir de 100 km/h. Et donc pour demain, on reste quand même sous des conditions beaucoup plus calmes. On aura un petit peu de grisaille en matinée de la Bretagne vers le Hauts-de-France, également en direction du quart sud-ouest, mais ça va très vite se dissiper pour vraiment une très belle journée avec quelques cumulus de beau temps. Par contre, à l'est, on pourrait encore avoir quelques petits bourgeonnements qui conduiraient à l'évolution d'urne, c'est-à-dire un petit coup de tonnerre, essentiellement sur les reliefs du Massif central et des Alpes. Maintenant, pour la canicule, j'y viens, on est en températures qui seront en légère baisse à l'ouest, mais aussi, ça reste très temporaire, puisque ça va remonter dès ce week-end. Il fera 32 degrés à Montauban, 29 degrés à Orléans, 25 degrés à Alençon, 27 degrés à Paris. Par contre, l'Est, lui, résiste encore avec de fortes chaleurs et donc des températures même encore caniculaires. La maximale sera attendue à Nîmes avec 38 degrés. Il fera 34 à Toulon, tout comme à Lyon, 32 degrés à Strasbourg, 31 degrés à Clermont-Ferrand.
Les randonneurs sont prévenus, au moins dans le sud-est.
Oui, pensez à bien vous hydrater et surtout à vous baigner. Profitez-en, c'est les vacances.
Merci Claire et à tout à l'heure après 19h.
RTL Soir.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain, comment préparer la suite après cette pandémie qui bouleverse nos vies? Tous les jours, Guillemette Franquet pose la question à des personnalités. Aujourd'hui, c'est Jean-Louis Etienne qui se prête à l'exercice. Et le médecin explorateur met en avant la nature, le meilleur de nous-mêmes, la solitude et la musique, bien sûr.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, je vous remercie. Ça va bien moralement, ça va bien physiquement, mais d'une manière générale, je vais bien, merci.
On sort d'une période qui n'a pas été forcément facile.
Oui.
Vous êtes habitué aux grandes expéditions. Ça vous a coûté d'être confiné dans un endroit avec un rayon d'un kilomètre ?
J'ai passé le premier confinement intense, c'était il y a un an, donc chez moi dans le Tarn où j'ai une maison dans les bois. Et donc, je dois dire que j'étais extrêmement privilégié. Et on a assisté à l'éclosion du printemps. J'ai une capacité d'évasion peut-être, mais j'avais la nature qui m'a aidé. Et d'une manière générale, la nature n'est pas le décor de l'existence, voyez. Nous sommes la nature nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup.
Jean-Louis Etienne, quel mot vous utiliseriez pour qualifier le Covid ?
Le Covid, ou la Covid, est une pandémie, c'est-à-dire qu'elle touche tout le monde. Et c'est une prison virale. Elle nous a enfermés.
Donc vous diriez prison ?
Je dirais prison. Et dans le mot prison, effectivement, il y a la privation de liberté, de mouvement, de relation. Et en tant que prisonnier, si vous voulez, ça fait appel à beaucoup plus d'enquêtes personnelles, de ressources personnelles, aller chercher un peu ses réserves, ses ressources.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et cela que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini.
Et moi, j'ai connu des périodes de confinement volontaires. Aller au pôle Nord en solitaire pendant 2 mois, c'est se mettre dans une période de confinement volontaire. Et j'ai découvert une chose. Au début, je voulais abandonner tellement c'était difficile. J'ai découvert qu'on ne repousse pas ses limites, on se découvre. On a des raisons, si vous voulez, des fois de saturation totale, voilà. Et donc, allez chercher le meilleur de vous-même.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier, qu'on aura dans le monde de demain ?
C'est une bonne question. Moi, je peux vous dire ce que j'avais dans le monde d'hier, par exemple. J'ai évoqué à l'instant l'expédition au pôle Nord que j'ai faite en solitaire. Je l'ai fait en 1986. En 1986, il n'y a pas de GPS et pas de téléphone. Portable, voilà. Donc, c'est une retraite absolument intense, quoi. J'avais le soleil pour me diriger. Et donc, je dis aujourd'hui, j'ai eu la chance de le faire en 86. Il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas le téléphone, vous voyez. C'est quelque chose où j'ai traversé toutes les tentations de l'abandon parce que c'était dur, parce qu'il n'y a personne autour qui vous dit « Allez, vas-y, je ne sais pas quoi ». Il n'y avait pas de source d'encouragement à travers un téléphone ou un truc comme ça, une communication avec l'extérieur. Donc, c'est quelque chose dont je suis revenu beaucoup plus fort. Moi, j'ai des enfants jeunes, je les vois même, tous les enfants, donc ils ont ce que je n'avais pas, c'est-à-dire, j'appelle ça un prolongement exosomatique, c'est-à-dire que le téléphone fait partie du corps. Aujourd'hui, c'est quasiment, on a l'impression qu'à force de rester sur la main, les gènes de la main vont commencer à l'adopter. Et donc, il y a plus de temps avec soi.
Est-ce qu'il y a une musique, un son qui ont été importants pour vous pendant cette période ?
J'ai en tête quelques musiques, mais depuis longtemps. Vous voyez, je me les resserre. J.J. Cale, c'est un bluesman américain qui m'accompagne depuis très longtemps. Il m'accompagne depuis très longtemps. Quand j'étais médecin, que je faisais des remplacements de médecins, vous voyez, on avait des cassettes. On faisait des visites, beaucoup. On allait chez les gens. Je faisais beaucoup en milieu rural. Et J.J. Cale, c'est un bluesman que j'adore. Mais je le remets là, je l'ai remis il n'y a pas longtemps, et je pleure. Je pleure d'émotion, des choses que ça me rappelle, si vous voulez, des moments. Un morceau qui vous touche profondément, il vous accompagne toute une vie.
Merci beaucoup Jean-Louis Etienne.
Ben écoutez, c'est avec plaisir, merci, parce que c'est du temps pour parler aux autres, de parler de soi. C'est rare qu'on ait du temps comme ça, je vous remercie.
Dans les oreilles de Jean-Louis Etienne, on en profite aussi.
C'est dur au sort.
Le cri s'est abattu sur le monde.
Mais ça sera vachement mieux.
Anaïs Buisson sur RTL.
La révolution industrielle était en marche et notre standard de vie suivait la courbe ascendante du progrès mécanique.
Après la crise.
Après la crise, la chronique estivale du service économie de RTL pour décrypter comment des crises ont pu engendrer des évolutions, voire des révolutions. Aujourd'hui, avec Anaïs Buissou, voyons comment l'une des pires crises du sport a permis aux instances mondiales de s'allier pour lutter contre le dopage. C'est le scandale Festina sur le Tour de France.
Il est 5h40 ce matin du 8 juillet 1998, à quelques jours du démarrage du Tour de France. Sur une petite route près de la frontière française, la douane contrôle une voiture, celle du soigneur de l'équipe Festina. C'est le début du plus gros scandale de dopage du cyclisme international.
En ouvrant le coffre, très facilement, les douaniers ont pu voir qu'il y avait quelque chose d'anormal.
Pim Verschuren, chercheur à l'université de Lausanne, spécialiste de l'intégrité du sport.
Il y avait des amphétamines, il y avait plus de, je crois, 200 doses de PO, une dizaine de seringues, et puis il y avait peut-être des matériels de refroidissement aussi, pour que les médicaments soient à la bonne température.
Trois jours plus tard, comme si de rien n'était, les coureurs s'élancent cette année-là au départ de l'Irlande, mais l'enquête éclate rapidement au grand jour.
Lorsque le Tour de France va arriver, je crois au bout de la troisième étape, sur le territoire français, c'est là que des arrestations vont avoir lieu au sein de l'équipe Festina.
Je ne suis au courant de rien, dit le directeur sportif de Festina. La ministre des Sports, Marie-Georges Buffet, elle, appelle à la prudence.
Très rapidement, l'équipe médicale de Festina et l'équipe sportive vont avouer effectivement qu'il y a un dopage organisé au sein de l'équipe. Et donc ça va provoquer une succession ensuite d'arrestations.
Viran qui est énervé, Brochard refuse de parler d'autre chose que de la course, les soigneurs ont la mine grave.
Philippe Chaffangeon a rencontré Richard Virenque, très nerveux.
Ça sera pas la rage que j'aurai sur le vélo, ça sera la haine.
C'est vraiment les aveux lors des auditions qui vont faire ouvrir un peu cette boîte de Pandore. Et il y a aussi plusieurs équipes qui vont se retirer d'elles-mêmes.
Le clan Virenque et Jean-Marie Leblanc se sont donné rendez-vous en terrain neutre chez Gilou, un bar tabac de campagne à quelques mètres de la ligne d'arrivée. 20 minutes de discussion avec le directeur du Tour plus tard, le leader des festivals Christina abdique.
Il vaut mieux qu'on s'arrête parce que ça nuit à beaucoup de monde, donc je donne rendez-vous l'année prochaine.
Ce scandale acte l'urgence d'une lutte généralisée contre le dopage.
Aujourd'hui, le président Jacques Chirac, sur les lieux mêmes de la course contre la montre, a tenu à prendre position sur le sujet du dopage.
Le dopage, c'est d'abord la malhonnêteté. Cela doit être condamné et sanctionné de la façon la plus ferme.
Il a vraiment fallu un scandale de l'ampleur que ce scandale Festina pour forcer une sorte d'innovation institutionnelle, de gouvernance, pour sauvegarder l'intégrité, la crédibilité et la réputation du sport professionnel. Parce que si on a des épreuves qui ne sont plus crédibles aux yeux du grand public, elles ne sont plus regardées.
On va isoler le tricheur, c'est-à-dire lui faire prendre de plus en plus de risques pour se doper et surtout faire prendre de plus en plus de risques à ceux qui leur fournissent les produits. Nous arriverons à nos fins et nous serons encore plus efficaces en matière de lutte antidopage.
Avec Festina, on s'est rendu compte non seulement que le dopage était monnaie courante dans le cyclisme, mais qu'il y a eu des ponts avec d'autres disciplines. Des grands sports comme l'athlétisme, le football. Il y avait aussi des pratiques de dopage sanguin qui étaient extrêmement courantes et il fallait réagir. Et c'est pour ça que le Comité Olympique International, accompagné des grandes fédérations, fédération d'athlétisme, fédération de cyclisme, mais aussi des gouvernements, ont créé cette agence mondiale antidopage qui a été créée en 1999, quelques mois après ce scandale Festina et directement en réponse à ce scandale.
Il s'agit, je cite, de créer un organe indépendant qui ne soit pas placé sous le contrôle d'une composante particulière comme le CIO, les fédérations internationales ou les comités nationaux olympiques.
Le premier effet a été vraiment d'harmoniser les règles antidopage parce qu'auparavant il y avait des fédérations sportives et des États qui avaient des règles antidopage mais qui n'étaient pas forcément cohérentes, uniformisées. Et en même temps, en parallèle, il y a l'UNESCO, donc une agence des Nations Unies, qui va créer une convention des Nations Unies contre le dopage. Aujourd'hui, il y a 193 États qui ont signé cette convention, donc ce qui en fait une des conventions des Nations Unies les plus populaires, les plus universelles à travers les frontières.
Cela n'a pas empêché d'autres scandales sur le Tour de France, au cours des Jeux Olympiques, avec un dopage organisé en Russie. La lutte internationale contre le dopage souffre également de lourdeurs administratives, mais elle s'adapte régulièrement pour garantir au maximum l'intégrité des sports du monde entier.
Anaïs Buissou avec la précieuse collaboration du service des archives de RTL. Un peu de pub et on ouvre notre page culturelle de l'été avec d'abord Charles Trenet qui inspire toujours les chanteurs d'aujourd'hui. A tout de suite.
RTL Soir.
C'est
l'été.
C'est l'été.
Laissez-vous tenter sur RTL.
Laissez-vous tenter par la réouverture du musée Carnavalet. Laissez-vous tenter par un livre-album, oui, sur Charles Trenet. Laissez-vous tenter cet été par Bernard Lehu, Monique Younes et Jérôme Florin.
19 février 2001, Charles Trenet décédé à l'âge de 87 ans, Bernard Lehu, 20 ans après. Un livre richement illustré s'appelle « La Révolution Trenet », signé Valentin Schmitt, rend hommage à l'œuvre du fou chantant.
L'inventeur de la chanson moderne assure l'auteur de ce superbe album. Dans les années 30, Trenet bouscule tout, à la fois auteur, compositeur et interprète du jamais vu jusque-là. Il introduit dans le répertoire de l'époque les rythmes du jazz et une langue poétique influencée par le surréalisme. Voilà pourquoi ses chansons traversent le temps bien mieux que la chanson réaliste ou le comique troupier à la mode au début du XXe siècle. Une mode dont se défiait Charles Trenet.
J'ai eu beaucoup plus peur d'être à la mode que d'être démodé. Quand j'ai senti que j'étais une mode et que cette mode pouvait passer, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas être à la mode et je suis sorti de cette mode.
Avec Charles Trenet débarque une langue nouvelle, une façon de la dire aussi inédite, un formidable coup de jeunesse, voire de folie. Avec Charles Trenet, il y a de la joie, la Tour Eiffel part en balade et saute la scène à pieds joints. Et la poésie, elle, envahit la ville et très tôt la rue.
Et il y a de la joie, la Tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin.
Le livre nous rappelle que Trenet a d'ailleurs commencé par publier des poèmes et avait été adoubé par des écrivains comme Max Jacob ou Jean Cocteau. Et comme chez tout poète, sous l'apparente légèreté de ses chansons, pointe une nostalgie, une mélancolie, parfois une noirceur qui donne de la densité à ses textes.
Mais la tristesse systématique, parce que arriver devant le public et se faire plaindre, c'est quand même une façon facile d'avoir du succès.
Et par exemple, l'un de ses succès les plus allègres, Je chante, raconte pourtant, quand on écoute bien, le suicide d'un vagabond chanteur dont le fantôme prendra le relais. Admirateur des grands poètes du 19e siècle, Trenet a mis leur vers en musique, comme dans La Magnifique Chanson d'automne de Verlaine.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langue.
Charles Trenet, le révolutionnaire de la chanson française, qui a aussi ouvert la voie aux générations qui l'ont suivi, hein, Bernard.
Oui, ce que montre très bien le livre de Valentin Schmitt, avec entre autres cette citation savoureuse de Jacques Brel: sans lui, donc sans Trenet, nous serions tous des experts comptables. Autre grand admirateur de Trenet, Georges Brassens: il m'a tellement impressionné que pendant des années, il m'a empêché d'écrire, je ne chantais plus que du Trenet. Par la suite, Brassens et Trenet se croiseront, comme l'atteste l'une des photos que l'on trouve dans le livre, et ce formidable duo sur la chanson « Tout est au duc ».
Tout est au duc ici, monsieur, tout est au duc, tout est au duc, tout est au duc. Il possède à lui seul des millions de ducats. Oui, vraiment, monsieur, c'est fou ce que le duc a. Le duc a tout, monsieur, pour être un homme heureux, mais le duc est très malheureux. Depuis 20 ans, il a perdu ses cheveux, il est nerveux, et nous cherchons en vain depuis un truc pour faire pousser les poils du duc.
L'influence de Trenet s'exerce aussi sur les chanteurs d'aujourd'hui. Exemple, Benjamin Biolay au micro de Steven Bellery.
Quand j'ai commencé à écrire de la chanson en français, j'ai cherché, bien sûr, qui étaient les gens qui pouvaient être des maîtres à penser. Et je crois qu'assez vite, je me suis rendu compte que finalement, c'était le fil conducteur de toute cette nouvelle chanson française qui me plaisait. Il fallait donner la paternité de toute la belle chanson française d'après-guerre, mais c'est un peu le fossoyeur de la chanson réaliste et l'inventeur de la nouvelle chanson française qui, pendant des décennies, a diverti les gens et continue de le faire.
Serge Gainsbourg aussi était un immense admirateur de Charles Trenet. Ouais. Et le répertoire de Trenet est plus que jamais vivant grâce à la génération actuelle.
Ah bah oui, qui ne cesse de reprendre ses chansons. Alors dans l'ordre, nous allons entendre Biolay donc, qui lui a consacré tout un album en 2015, Mika, Carla Bruni et Mathieu Chédid.
Au revoir Paris. Moi. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard.
Et puis je chante soir et matin.
Francia, caro padre.
speranza e ti ho presa nel mio cuore.
S'il fallait une dernière preuve du génie du créateur de Douce France, Valentin Schmitt, l'auteur de La Révolution traînée, rappelle son spectaculaire succès à l'étranger. Et là aussi, les multiples reprises par les plus grands. Deux exemples. Que reste-t-il de Nos Amours, version Barbara Streisand et La Mer par George Benson.
Beyond the sea, somewhere waiting for me.
Vous nous faites un peu des pépites à la Anthony Martin.
Voilà, une petite concurrence. George Benson et Charles Trenet posent d'ailleurs ensemble sur l'une des remarquables photos qui illustrent La Révolution Trenet. Le livre, publié par Valentin Schmitt, c'est aux éditions EPA.
Longtemps, après que les poètes ont disparu.
Merci Fabuleux, ça donne envie de se replonger dans la carrière de Charles Trenet. Merci Bernard. Revoir Paris, chantait tout à l'heure Benjamin Biolay. Bah justement, on va revoir Paris avec vous, Monique Younès. Vous allez nous intéresser ce matin à l'histoire de la capitale.
Oui, parce que le musée Carnavalet, musée de l'histoire de Paris, inauguré en 1880, a rouvert ses portes rue de Sévigné depuis un mois et demi dans le 3e arrondissement, après 4 ans de fermeture et quelques 58 millions de travaux. Et c'est un franc succès, c'est j'imagine votre
musée préféré. Absolument, et 4 ans c'était très long.
Ben oui. Voilà, et là vous allez apprécier ce musée plus aéré, plus clair, au parcours désormais chronologique, de la préhistoire à nos jours, avec une attention particulière pour les enfants. 10% des œuvres sont délibérément installées à hauteur d'enfants, comme ce portrait de Sainte-Geneviève, à qui Noémie Giard, la chef du service des publics du musée Carnavalet, voue un culte passionné.
Voilà Geneviève devant l'hôtel de ville, repoussant l'invasion des Huns, ce tableau qui est un peu emblématique de l'histoire de la capitale, puisque Geneviève est la patronne de Paris, est accrochée à la hauteur du regard des enfants. Ça leur permet une plus grande autonomie dans le parcours. Souvent, quand on visite les musées avec les petits, on a des difficultés à leur montrer les œuvres. Donc là, en descendant les œuvres, en les rapprochant de leur regard, on facilite vraiment leur autonomie dans le parcours de visite. Et on rend la visite aussi plus agréable et plus confortable pour tous les parents accompagnateurs de tous ces enfants.
Alors Monique, est-ce qu'il y a toujours la collection d'enseignes qu'on voyait à l'entrée quand on arrivait dans le musée ?
Oui, très belle collection qui rappelle l'époque où les numéros de rue n'existaient pas. Mmh. Et on traverse les salles lumineuses où ces enseignes sont exposées pour plonger dans les origines de la capitale jusqu'au néolithique, où nous attend un des objets les plus spectaculaires du musée, une pirogue en chêne découverte dans le quartier de Bercy. Elle date de 2800 avant Jésus-Christ et assurait le passage d'une rive à l'autre de la Seine, m'a dit Noémie Giard.
Dans les années 1990, quand on a fait ces travaux de la grande ZAC de Bercy, et notamment l'aménagement du parc, des fouilles ont permis de trouver tout un ensemble de pirogues, plus ou moins bien conservées, mais on a cette très belle pirogue qui est présentée aujourd'hui dans une vitrine monumentale de plus de 5 mètres de long, puisque c'est la taille de cette pirogue, taillée dans un seul tronc de chêne.
J'ai le souvenir de Carnavalet comme un musée de l'accumulation, c'est toujours le cas ?
Eh bien c'est toujours le cas. Toute la vie parisienne et les événements parisiens sont illustrés par 3800 objets parmi une collection qui compte 625 000, des affiches, des gravures, des peintures, des sculptures, des photos, des monnaies, des bijoux, des vêtements, des maquettes, mais aussi des décors comme la chambre de Proust avec son lit en fer, ses objets de toilette, son
encrier.
C'est très émouvant. Il y a sa canne aussi, sa paire de candélabres. Il y a aussi la reconstitution de la chambre de Marie-Antoinette. Elle est toujours là, la conciergerie, chambre qu'elle occupait avant de monter à la guillotine. On y voit les bas blancs et les serviettes très délicates de la reine. Il y a aussi la reconstitution de la bijouterie Fouquet. C'est une merveille.
À cet endroit-là, on est un petit peu un nœud du parcours où nous avons un ensemble de décors. Le Café de Paris avec son mobilier Art Nouveau et juste à côté, la bijouterie Fouquet. Dont l'intérieur et la façade ont été réalisés par Alphonse Mucha en 1901. Absolument magnifique, très beau décor Art Nouveau avec des formes végétales. Le pan du comptoir d'accueil est somptueux, qui accueillait les clients de cette bijouterie.
Alors, question importante, les collections du musée s'arrêtent à quelle date ?
Eh bien, c'est une des nouveautés de Carnavalet, qui devient aussi un musée d'histoire contemporaine. D'accord. L'ultime œuvre exposée est une photographie des rues de Belleville lors du premier confinement. Vous verrez aussi dans la dernière salle des images de Notre-Dame en feu, alors qu'on a déjà admiré dans les salles du Moyen-Âge de magnifiques gargouilles de la cathédrale en calcaire, censées surveiller l'île de la Cité. L'idée étant de témoigner de tous les événements qui ont fait Paris, du plus récent au plus anciens. Et quand vous serez devant les affiches de mai 68, vous vous souviendrez de cette ode au Paris révolutionnaire.
Mais, Paris, mais, Paris.
Et comme la visite des collections permanentes du musée Carnavalet est gratuite, il ne vous reste donc qu'à réserver votre place pour y aller.
Le jeune homme harassé, déchiré ses cheveux. Le jeune homme hérissé a arraché sa chemise. Camarade, ma peau est-elle encore de mise ? Et dedans, mon cœur seul ne fait-il pas vieux jeu ?
Merci au service culture de RTL et à Jérôme Florin pour ces quelques idées de lecture, de sortie. Et à demain pour de nouvelles propositions.
Laurent Marsic, les 100 ans de la radio sur RTL.
Comment naît un média populaire ? Il faut parfois bien peu de choses pour faire grimper l'audience. Une estrade en bois, une bonne idée et l'envie de faire chanter la France. C'est le Ploum Ploum de Radio Luxembourg en 1949 par exemple. Et dès le début de cette chronique de Laurent Marsic, vous entendrez une archive inédite qui date de 1944. Tendez l'oreille.
C'est l'histoire d'une renaissance. Voilà 6 ans que les voix de Radio Luxembourg se sont tues. Nous sommes en novembre 1945, le 12 novembre très précisément. Les Américains qui ont libéré le duché du Luxembourg, un an auparavant, viennent de rendre les clés de la radio à l'État luxembourgeois.
Radio Luxembourg, operated by the Army Psychological Warfare.
Pendant un an, l'armée américaine a utilisé le puissant émetteur de la radio pour diffuser des programmes destinés à saper le moral des Allemands.
Les Allemands diffusent des informations et des instructions qui prétendent émaner de stations de radio alliées sur une longueur d'onde assez rapprochée de la longueur d'onde de Radio Luxembourg pour tromper certains auditeurs.
Il faut maintenant tout redémarrer. C'est donc chose faite le 12 novembre 1945.
Les programmes de France présents.
En France aussi, les programmes redémarrent avec une émission baptisée l'Alphabet de la Famille. La seule émission diffusée pendant et après la guerre. Pendant la guerre sur la radio d'État, après la guerre sur Radio Luxembourg.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous tous les petits-enfants de France, voici l'Alphabet de la Famille.
Je ne me rappelle plus bien les dates, mais cette visite-là m'avait frappé. Car à ce moment-là, quand on ouvrait la radio... Et quand on tournait le bouton pour fuir le poste qui osait s'appeler Radio Paris, et prendre nos ondes à nous, les ondes de notre alphabet, c'est ceci qu'on entendait. C'était Monsieur Brunold qui nous jouait pour nous, la Marseillaise, sur le piano où Rouget de Lille l'avait joué pour la première fois à Paris, avec toutes les petites fioritures qu'elle avait encore dans ce temps-là.
Cette émission était culturelle, une mère, Françoise Morange, et ses 3 enfants lisant le dictionnaire. De temps en temps, ils s'arrêtaient sur un mot que leur mère leur expliquait dans un langage compréhensible par des enfants. C'est Sacha Guitry qui rédigeait ces définitions.
Le vrai ? Avec le dictionnaire ?
Mais oui, avec le dictionnaire, Georges. Rappelle-toi, vous commenciez à peine à le feuilleter, c'était en 1942, et pourtant, vous osiez déjà dire tout haut ce que chacun pensait tout bas et désespérait d'entendre.
Nous voici donc au sortir de la guerre, il est 13h, nous sommes dimanche. Au micro, le grand patron des programmes de Radio Luxembourg, futur RTL, Louis Merlin.
À notre micro, Louis Merlin.
Mais oui, voici l'alphabet de la famille. Depuis la libération, des milliers d'entre vous si gentiment, si fidèlement l'avaient réclamé par vos lettres.
Pendant ces années d'après-guerre, la radio va jouer un rôle essentiel pour le moral des Français. On a besoin de légèreté. Voici l'émission qui a probablement rendu Radio Luxembourg, la future RTL, si populaire. Émission créée sur la radio d'État qui n'en voulait plus. RTL va en faire un rendez-vous incontournable. Son nom, on chante dans mon quartier.
Eh bien, Troubadour vous dit bonjour. Paladin vous salue bien. Et le marquis vous donne un baiser ensoleillé.
Le principe, simple comme bonjour, faire chanter les quartiers populaires de Paris. On chante dans mon quartier sous la pression des auditeurs deviendra ploum ploum tralala, plus facile à retenir et plus drôle dans ces années d'après-guerre où la France a besoin de se divertir.
Quel âge avez-vous, mademoiselle ?
15 ans, monsieur.
Vous avez 15 ans. 15 ans au Roméo.
très vite. C'est un immense succès. La province réclame son ploum-ploum. Alors toute la troupe s'embarque pour une tournée. La Corse, le Sud, le Nord, toute la France chante.
À demain, mais où ça ?
Et l'émission attirera jusqu'à 30 000 spectateurs devant la petite scène que montaient chaque jour les équipes de Radio Luxembourg. Une petite scène en bois pour chanter dans un quartier.
Que la femme se voit exiger partout, c'est pour elle un brevet d'élégance.
Les 100 ans de la radio, c'est à réécouter sur le site rtl.fr. On marque une pause et ce sera l'heure des infos.
RTL Soir.
RTL. Il est 19h. Et le journal, c'est avec Pierre Collat. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous. Les Antilles face au virus, le ministre de la Santé Olivier Véran est attendu. D'ici quelques minutes à l'hôpital de Fort-de-France, on sera sur place dans un instant. Un coup de poing dans le visage parce qu'il avait demandé un pass sanitaire. C'est ce qui était arrivé à Mathias, serveur dans une brasserie de Charente-Maritime. Les talibans progressent en Afghanistan. Ils sont désormais à 150 km de la capitale Kaboul. Éric Chesson, chirurgien et président de la chaîne de l'espoir, sera l'invité de ce journal. Et puis des nouvelles enfin de Guirec Soudé. On avait perdu la trace du rameur breton dans l'Atlantique depuis plus de 14 jours.
RTL Soir.
Les Antilles face à l'explosion de l'épidémie. La crise sanitaire est qualifiée de dramatique par l'exécutif. Le taux d'incidence frôle là-bas les 2000 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe. L'île est reconfinée ainsi que la Martinique. Bars, restaurants et plages sont fermés. Des renforts de soignants sont déjà arrivés de métropole, mais du personnel supplémentaire est attendu. Les services hospitaliers sont complètement débordés. Bonsoir Sinamir.
Bonsoir.
Vous êtes dans l'hôpital de Fort-de-France en Martinique où le ministre de la Santé Olivier Véran ainsi que le ministre de l'Outre-mer Sébastien Lecornu devraient arriver d'ici 30 minutes. En plus de la situation sanitaire extrêmement tendue, ils doivent s'attendre à un accueil plus ou moins houleux.
Oui, notamment face à la mobilisation importante de soignants ici contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ils sont en ce moment plusieurs dizaines sur le parking des urgences de l'hôpital, demandent des moyens supplémentaires face à cette situation de crise. Parmi eux, Cédric, aide-soignant, attend pour le dire directement Olivier Véran.
Ça va venir ici tout en Antilles, parce que la situation des hôpitaux en Antilles, elle est catastrophique depuis des années. L'obligation vaccinale ne fait pas. Donc c'est de leur faute tout ça. C'est eux qui ont causé cette quatrième vague.
En rouvrant l'île ?
En rouvrant l'île. En sachant que l'épidémie était toujours là.
Un ressentiment partagé par Hervé, biologiste au CHU de Fort-de-France depuis plusieurs années.
Aujourd'hui, ils arrivent pour essayer de soi-disant mettre des houstiques. C'est pas possible de pouvoir penser comme ça et de dénigrer les gens comme ça. Comme M. le président Emmanuel Macron dit que nous sommes l'exemple de ce qu'il faut. Si on ne se fait pas vacciner, on ne peut pas marcher. Dites à M. Macron pour moi, s'il ne veut pas qu'on soit au sang en résistance, il faut que commencer par lui donner la vérité. Qu'il faut encore aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de pandémie et de débordé par les hôpitaux.
Une mobilisation qui se déroule à quelques mètres à peine, des brancards où sont installés des malades en des détresses respiratoires, une double tension que devront affronter les ministres à leur arrivée dans quelques instants.
Sinamir, envoyé spécial de RTL à Fort-de-France.
Retour en métropole avec ce serveur agressé pour avoir demandé le pass sanitaire à un client.
Ça s'est passé lundi après-midi vers 16h. Nous sommes à Saintes, en Charente-Maritime. Mathias Coutan est un jeune homme de 28 ans, serveur à la brasserie du Point Central. Un habitué des lieux arrive et demande un café. La suite, c'est Mathias qui la raconte.
Je lui dis, est-ce que je peux juste contrôler votre QR code ? Pourquoi faire ? Je lui dis, écoutez monsieur, c'est une décision gouvernementale depuis ce matin. Nous, si on ne le fait pas, forcément on aura une amende et des sanctions. Donc il me dit, oui mais à quoi sert ce pass sanitaire ? J'ai écouté, bougez pas, je vais chercher votre café. Tout de suite, il s'est levé, il m'a montré la poche intérieure de son blouson en me disant, il est là mon passe sanitaire, il est là, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et donc je lui dis, ben, monsieur, s'il est là, montrez-le moi. Et puis c'est terminé, vu que vous êtes un habitué en plus. Dès que je termine ma phrase, il m'a poussé. Puis j'ai pris un coup de poing en plein dans l'œil, donc vu que j'avais mes lunettes, ça m'a fait péter une veine de la pommette. La police est arrivée 2 minutes après, donc ils l'ont cherché pendant une petite demi-heure, mais ce jour-là, il y avait une braderie dans les rues, donc il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? À quel moment il s'est dit que moi, le petit niveau que je suis, je méritais, par un monsieur d'une cinquantaine d'années, de prendre une droite comme ça pour une histoire que même moi-même, je ne contrôle pas. Moi, si je fais pas appliquer le pass sanitaire, mon patron prendra une amende et sûrement une fermeture. Mais voilà, il faudrait pas que ça s'envenime et que ça continue parce que ça va nous faire perdre, un certain goût au métier, quoi.
Mathias, serveur dans une brasserie de Sainte, propos recueillis par Philippe Demaria. Et notez que Mathias compte porter plainte demain pour ce coup reçu au visage.
On vous annonçait hier la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues. Eh bien, le gouvernement change d'avis.
Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre, directement sur demande d'Emmanuel Macron. C'est donc une volte-face. Après l'annonce hier de ce contrôle technique pour les deux roues motorisées, qui concernait aussi les voitures sans permis, c'est une mesure exigée par l'Union européenne. Des discussions reprendront début septembre avec les fédérations de motards qui avaient menacé de mener des actions à la rentrée. Chantal Perrichon, présidente de la Ligue contre la violence routière, est pour sa part très en colère de cette reculade.
Le contrôle technique pour les deux roues motorisées, nous le demandons depuis des décennies, parce qu'il faut qu'il y ait une égalité entre les deux roues motorisées et les véhicules. Cela nous semble une évidence. Lorsqu'il y a des accidents, bien souvent, le propriétaire de la moto va bricoler une réparation et lorsqu'elle sera revendue, elle mettra l'acheteur suivant en danger. Donc au nom de l'égalité et au nom de la sécurité routière, nous demandons le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Mais hélas, il y aura encore des discussions. Les motards vont rencontrer les décideurs de la sécurité routière qui, à l'évidence, caleront une nouvelle fois devant ce lobby qui fait peur. Ça, nous le déplorons. La sécurité routière ne doit pas dépendre de bruit de bottes, en l'occurrence, alors que nous nous battons pour qu'il y ait plus de sécurité sur les routes.
Propos recueillis par Marie Guerrier.
La destruction de 5000 hectares de champs de betteraves.
Oui, dans la Marne, l'Aisne et les Ardennes, des betteraves qui seront broyées ou labourées directement dans la terre. Tout cela à cause d'un produit non conforme contenu dans un herbicide qui a été utilisé sur ces champs. Ça représente à peu près 500 000 tonnes de betteraves. C'est 1,5% de la production annuelle française. Mais les autorités ne veulent prendre aucun risque. Les planteurs, qui avaient déjà souffert du gel au printemps, doivent donc se résigner. Samuel Goldschmidt.
Oui, l'année dernière, les pucerons et la sécheresse avaient ravagé les champs. Au printemps, 50 000 hectares ont dû être replantés après du gel tardif. Et cette fois, c'est un produit non conforme qui a été vendu à certains producteurs. Guillaume Gandon, agriculteur dans l'Aisne, est le vice-président de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves.
Là, c'est comme si vous aviez acheté de l'aspirine et à l'intérieur, c'était du Suppasfon, quoi. C'est un désherbant qui est autorisé dans le monde, d'ailleurs, notamment sur de l'ananas ou sur la banane, mais qui n'est pas autorisé en Europe et qui, en plus, n'a rien à faire dans ce produit destiné au désherbage des betteraves.
5000 hectares devront donc être broyés, détruits au champ, alors que les plantes sont magnifiques car il y avait enfin de la pluie.
C'est terrible pour les planteurs. Encore une fois, on est victime, complètement victime de cette affaire-là, comme les sucriers qui ne vont pas avoir les betteraves pour faire tourner leurs usines. Néanmoins, nous, on accepte la décision parce qu'il est hors de question qu'on puisse mettre un doute sur la filière, sur le fait d'avoir une traçabilité parfaite. Toutes les parcelles sont identifiées et seront détruites. Mais bon, ça prouve qu'en France, on n'est pas n'importe quoi dans le circuit alimentaire, quoi.
Avec la betterave, les chiffres vont très vite. 5000 hectares, c'est un potentiel de 500 000 tonnes de tubercules qui seront détruits, 60 000 tonnes de sucre, une valeur de 27 millions d'euros. Les producteurs réclament une réaction du fabricant français du produit défectueux.
Samuel Goldschmidt, correspondant RTL dans le Grand Est.
RTL, il est 19h08 en Afghanistan. Les talibans sont à 150 km seulement de Kaboul.
Ils ont pris la ville de Ghazni aujourd'hui, une ville stratégique, donc à 150 km au sud-ouest de la capitale. L'offensive des talibans a commencé début mai, mais elle s'est accélérée ces deux dernières semaines. Les capitales provinciales sont prises une par une. Il faut rappeler que les forces internationales se retirent du pays au fur et à mesure de l'été. Joe Biden l'a encore confirmé pour les forces américaines. Éric Chesson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chirurgien et président de la chaîne de l'espoir. Vous connaissez très bien la situation en Afghanistan. Alors pour commencer, vous vous occupez de l'hôpital français de Kaboul. Quelle est la situation là-bas?
Vous savez, concernant l'Afghanistan, actuellement, les bombes manquent. La situation est catastrophique. Depuis 15 jours, comme vous l'avez signalé, nous rentrons dans le scénario du pire du pire. 10 postes frontières sur 14 sont pris par les talibans. 17 capitales provinciales, 233 districts sur 400. C'est-à-dire que c'est une marée qui entoure Kaboul. Et la situation est extrêmement difficile, elle est dramatique pour tous les gens et l'afflux de réfugiés sur Kaboul est massif. Ils occupent tous les jardins publics, les rues. On a ouvert les mosquées, les écoles pour accueillir ce flot de réfugiés terrorisés.
Comment ça se passe dans votre hôpital, l'hôpital français là-bas?
Je vais vous dire, le chirurgien vous parle, il vous dit on a opéré 3 cœurs ouverts aujourd'hui. Nous avons 98% d'Afghans, 1000 salariés, mais l'ambiance est catastrophique. Les gens sont terrorisés, ils n'ont plus une idée, c'est partir de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'il se produit quelque chose d'unique, c'est que les talibans, tous ceux qui ont plus de 30 ans, ils ont déjà connu. Et donc ils savent parfaitement ce qui les attend, et ils sont plus éduqués. Les Afghans de maintenant ne sont pas ceux de 96. Kaboul, c'était 600 000 habitants, actuellement c'est 6 millions. Et donc, les réseaux, l'Internet, ils ont évolué. Si vous voulez, c'est un naufrage et on se croise les bras.
Ces réfugiés qui arrivent à Kaboul, est-ce qu'ils sont en sécurité finalement là? Parce qu'ils fuient les talibans, mais est-ce que Kaboul peut tomber?
La sécurité, elle est pour un mois, deux mois, mais personne ne sait. Et puis surtout, est-ce que l'aéroport va continuer? Vous savez que les Américains qui disent effectivement le 31 août ou disons le 11 septembre, il y a les discussions, est-ce que les Turcs vont reprendre l'aéroport pour le rendre accessible aux vols internationaux? C'est oui ou c'est non. Si c'est non, nous ne pourrons pas continuer, puisque c'est la ligne rouge qu'on s'est fixée pour tous nos expatriés qui sont encore là-bas. Et c'est aussi pour tous ces réfugiés. Si vous avez un visa, ils veulent partir en Allemagne, en France, aux États-Unis, au Tadjikistan, mais ils veulent partir. Et la seule façon, c'est l'aéroport.
Est-ce qu'il y a une porte de sortie à cette situation? Les négociateurs de Kaboul auraient proposé aux talibans un accord de partage du pouvoir. Est-ce que ça serait une solution, cette négociation?
À chaque fois qu'on parle de Doha, on a l'impression qu'on ouvre une petite lumière d'espoir, mais elle est instantanément contredite par le terrain. Lorsque vous êtes à Doha, vous entendez les responsables talibans vous dire « on ne touchera pas aux ONG, on ne va pas toucher à la condition de la femme et autres ». Ce que nous entendons et ce que nous voyons sur le terrain, et les familles, les salariés de l'hôpital nous racontent des choses qui ne vont pas du tout dans la même ligne. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai qu'une envie de vous dire, je crois en l'homme, j'ai un espoir. Mais les dernières trois semaines ou le dernier mois nous rend un tout petit peu dubitatif.
Est-ce que, selon vous, il faudrait renvoyer des forces internationales sur place? Est-ce que ça peut être ça, la solution?
Je ne crois pas, si vous voulez. L'utilisation de la force en Afghanistan a montré au fil des années et des siècles son inaptitude totale. Nous assistons à une faillite politique, à une faillite morale, à une faillite financière et surtout une faillite de la reconstruction de l'Afghanistan. Il aurait fallu mettre un minimum du budget militaire sur les écoles, les hôpitaux, l'éducation. Mais si vous voulez, on a fait preuve d'un cynisme absolument total, 2000 milliards, mais qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien. Et trois semaines après le départ des Américains de la base de Bagram, tout s'écroule. Et donc, pour moi, ce qui se passe en Afghanistan, c'est la faillite totale d'un système que l'Occident, que les forces internationales ont mis sur l'Afghanistan. Je pense que les conséquences de cet échec collectif vont être considérables pour nous et notamment pour l'Europe.
Merci beaucoup Éric Chesson d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes chirurgien et président de la chaîne de l'Espoir.
Merci.
Et puis Pierre Collat, une première pour les livreurs des plateformes numériques. L'Espagne veut les salariés.
Vous les voyez à vélo ou en scooter avec d'énormes sacs à dos. Souvent, ils travaillent dans des conditions précaires. La plupart du temps, ils sont indépendants et non pas salariés. Cela va donc changer en Espagne à compter d'aujourd'hui. Le gouvernement espagnol oblige les entreprises du numérique à salarier les livreurs afin de faire reculer la précarité. L'Espagne est le premier pays européen qui va aussi loin pour réguler l'activité des grandes plateformes. Mais la partie n'est pas encore gagnée, Diane Cambon.
Mercedes est représentante des livreurs à domicile et depuis ce matin, elle ne cesse de recevoir des plaintes de la part de ses compagnons, les riders. Seule une plateforme de livraison à domicile sur quatre a décidé de faire de ses travailleurs indépendants des salariés de plein droit, comme le stipule la loi.
Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils allaient avoir un contrat en bonne et due forme, mais pas du tout. Glovo, par exemple, leur a dit qu'ils restaient indépendants. On est tous déçus. Personne n'est content avec cette loi.
La majorité des plateformes ont trouvé des astuces légales pour contourner la loi, embauchant des riders pour seulement quelques heures. Et le problème est que cela arrange certains livreurs, comme Manuel, qui préfère garder de la flexibilité.
Le seul point positif, c'est que grâce à l'application, je peux travailler quand je veux, les heures que je veux, et cela me donne une liberté, une certaine flexibilité.
Le gouvernement socialiste annonçait qu'il y aurait des sanctions si la loi n'était pas appliquée correctement. Une menace qui fait fuir la plateforme britannique Deliveroo, laquelle a annoncé son départ d'Espagne pour cet automne.
Diane Cambon, correspondante RTL en Espagne.
Et puis une bonne nouvelle dans l'Atlantique. Guirec Soudé a enfin été retrouvé.
On vous racontait dans RTL Midi l'angoisse des proches de ce rameur, originaire de Plougrescant dans les Côtes d'Armor. Guirec Soudé est parti de Cap Cod dans le Massachusetts afin de rejoindre Brest à la rame. Il avait disparu des radars depuis le 29 juillet, 14 jours sans nouvelles. Et finalement, il a été localisé aujourd'hui. Apparemment, tout va bien pour lui, Frédéric Veil.
Oui, le protocole de recherche lancé ce matin par les secours en mer portugais de Ponta Delgada a semble-t-il porté ses fruits puisqu'à la mi-journée, un chimiquier panaméen a croisé Guirec Soudé au nord des Açores. Le rameur breton ne semblait pas en difficulté, d'où le soulagement de son équipe à terre dont fait partie Alice Classens.
Oui, soulagé, là. Vraiment, je m'y attendais pas. Là, j'ai reçu l'email d'un commandant de bord de chimiquier qui a croisé la route de Guirec ce midi. Donc là, j'essaye de récolter des informations auprès de ce commandant de bord pour savoir dans quelles conditions il a pu échanger avec Guirec, à quelle distance, s'il l'a bien vu sur ses écrans, histoire d'être assuré sur plusieurs points. Mais il va bien. Everything is okay on board. C'est le message. Toujours aussi bref, mais rassurant quand même.
Alors, Guirec Soudé est à plus de 300 000 au nord de l'île de Terceira, aux Açores, loin de la Bretagne qu'il était censé rallier début septembre. Mais le principal n'est pas là ce soir, puisqu'après 14 jours de silence radio, on a enfin des nouvelles rassurantes du marin breton.
Frédéric Veil pour RTL. On souhaite donc bon courage à Guirec, qui a encore beaucoup de chemin avant d'arriver à Brest. Et puis un dernier mot de foot, on l'attendait, il est enfin arrivé. Le message de bienvenue de Kylian Mbappé à Lionel Messi. Welcome to Paris, Léo. Un message posté sur les réseaux sociaux. Mbappé qui est toujours pressé par le PSG de prolonger son contrat.
Merci Pierre. On vous retrouve à 20h pour le flash.
À tout à l'heure.
Le temps clair de l'Orme, des orages ce soir et demain encore de fortes chaleurs dans le sud-est.
Exactement, pour en revenir aux orages, ils vont se montrer donc très violents ce soir, accompagnés de fortes chutes de grêle et surtout de fortes rafales de vent dont il faudra surveiller. À plus de 100 km/h quand même, c'est pas rien. Donc 13 départements sont actuellement en alerte orage, donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes au sud de la Bourgogne-Franche-Comté, et 5 départements sont maintenant en vigilance canicule. Donc sinon, pour demain, ça restera un temps très calme dans l'ensemble, avec quand même quelques nuages encore qui vont perdurer, accompagnés de grisailles en matinée de la Bretagne vers le Hauts-de-France, ainsi que sur un quart sud ouest. Quelques petites averses de manière très locale vont encore résister à l'est. Par contre, dans l'après-midi, c'est une très belle journée dans l'ensemble, mais on n'est pas quand même à l'abri d'une petite évolution d'urne sur la plupart des reliefs, que ce soit le massif central ou encore au niveau des Alpes. Pour les températures, par contre, eh bien, elles sont en légère baisse, que ce soit pour toute la façade ouest. On aura 32 degrés à Toulouse, 29 degrés à Tours, 25 degrés à Rennes, 27 degrés à Paris. Par contre, la chaleur, elle résiste à l'est, avec même encore des températures caniculaires sur l'extrême sud-est. La maximale sera de 38 degrés à Nîmes, sinon on aura 34 degrés à Grenoble, tout comme à Lyon, 32 degrés à Dijon et 31 degrés à Clermont-Ferrand.
Et pour le week-end, Claire ?
Pour le week-end, on reste exactement sur la même tendance, avec une hausse encore des températures. La petite baisse à l'ouest, c'était très temporaire. Donc en globalité, pour la moitié nord, on aura 15 degrés en matinée et 21 degrés dans la moitié sud. Et donc les maximales dépasseront les 29 degrés, là encore pour la moitié nord, et plus de 35 degrés en moyenne, là encore, sont attendus pour ce week-end.
Il va faire très chaud. Merci Claire, merci à tous. On se retrouve demain pour une nouvelle tranche d'infos avec toute la rédaction de RTL. On dénonce Éric Jean-Jean, non ? Moi j'ai bien envie de le dénoncer.
Je vais présenter mes excuses à Pierre.
Vous avez entendu une petite musique pendant le journal de Pierre Collat ?
J'ai voulu faire une photo du studio pour mettre sur mon réseau Instagram pendant que vous étiez en train de parler. Voilà. Et en fait, j'ai ouvert sur Instagram où il y avait un truc qui défilait. Et encore, heureusement, ce n'était pas quelque chose de compromettant.
Bonne émission.